L'ASBL, le jardin des jeunes, vous présente.
إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأرض يومئذ لله.
Chaque âme goûtera la mort. La mort peut nous surprendre à n'importe quel moment. Chaque âme goûtera la mort, logiquement. Et vous recevrez vos parts, votre bénéfice. Votre gain, يوم القيامة.
كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام.
Celui, سبحانه وتعالى, subsistera. Tout ce qui est dans ce bas monde disparaîtra, sera condamné à l'éphémérité et ne subsistera que son visage, سبحانه وتعالى.
فبأي آلاء ربكما تكذبان.
Rappelez-vous constamment de ce qui brise le plaisir.
الموت.
وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. Approvisionnez-vous car la meilleure des provisions c'est la crainte. التقوى. S'approvisionner en action.
سبحانك فقنا عذاب النار. اللهم آنس وحشتنا في القبور.
Ceci dit, mes chers frères et sœurs, à partir du moment où nous savons que la mort viendra à chacun d'entre nous, qu'avons-nous préparé? Une question qui doit se poser à chacun d'entre nous. Avec quoi allons-nous rencontrer notre Seigneur subhanahu wa ta'ala?
Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna min azabiha. Allahumma ajirna min azabiha. اللهم أجرنا من عذاب الحشر اللهم آنس وحشتنا في القبور.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وبعد.
مشايخ العسير أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Le thème d'aujourd'hui إن شاء الله عز وجل, comme vous l'avez remarqué vous-même, a pour titre les bienséances du rite funéraire. Adab al-Janaïs ou Adab al-Ta'ziya. Allah subhanahu wa ta'ala a décidé que toute chose dans ce bas monde, toute chose dans ce bas monde est condamnée à l'éphémérité. Al-Fana'a. Et celui subhanahu wa ta'ala subsistera. Il dit dans le Coran, Kul man 'alayha fan. وَيَبْقَ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. Tout ce qui est dans ce bas monde disparaîtra, sera condamné à l'éphémérité et ne subsistera que son visage subhanahu wa ta'ala plein de majesté et plein d'honneur. Donc logiquement chaque âme, كُلُّ رُوحٍ, chaque âme goûtera la mort logiquement. Comme nous le dit également subhanahu wa ta'ala dans le Coran lorsqu'il nous dit كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ. ثم توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. كل نفس ذائقة الموت chaque âme goûtera à la mort. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Et vous recevrez vos parts, votre bénéfice, votre gain, يَوْمَ الْقِيَامَةِ. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. Celui qu'on va écarter, qui arrivera à s'écarter de l'enfer et qui entrera au paradis, فَقَدْ فَازَ, il a réussi et gagné. Et Allah subhanahu wa ta'ala conclut le verset en disant وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعٌ وَغُرُورٌ. La vie de ce bas monde, mata' n'est qu'un plaisir, وَغُرُورٌ n'est qu'une façon d'induire les gens en erreur. Notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Allah azza wa jalla lui donne l'injonction de prévenir sa communauté que lui-même mourra. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'est pas quelqu'un d'immortel. Allah subhanahu wa ta'ala lui dit tu mourras ainsi que tous ceux qui sont après toi. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun thumma innakum 'inda rabbikum taqtasimun. Innaka mayyitun, tu mourras, wa innahum mayyitun, ils mourront également, thumma innakum 'inda rabbikum taqtasimun. Et c'est auprès de votre Seigneur que vous disputerez et il sera donc votre arbitre inshallah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam également nous rappelle, mes chers frères et sœurs, nous rappelle cette importance, l'importance de se rappeler souvent de la mort, al-maut. Car souvent nous avons tendance à oublier cela. Nous avons tendance que la mort, al-maut, قَدْ تُبَغِتُنَا فِي أَيِّ وَقْتِ. La mort peut nous surprendre à n'importe quel moment. Et j'aime à citer les paroles de l'imam Shafi'i, ce vers poétique, lorsqu'il nous dit تُؤَمِّلُ فِي الدُّنْيَا طَوِيلًا وَلَا تَدْرِي إِذَا جَنَّ لَيْلٌ هَلْ تَعِيشُ إِلَى الْفَجْرِ. فكم من صحيح مات من غير علة وكم من مريض عاش دهرا إلى دهري. تؤمل في الدنيا طويلا ولا تدري. Tu alimentes, tu animes beaucoup d'espoir dans ce bas monde et tu ne sais pas. هل تعيش إلى الفجر؟ Vas-tu vivre jusqu'à l'aube؟ فكم من صحيح مات من غير علة. Combien de gens en bonne santé sont morts sans maladie؟ وكم من مريض عاش دهرا إلى دهري. Et combien de personnes en bonne santé, en malades plutôt, ont vécu plus longtemps que d'autres personnes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, il nous rappelle cela lorsqu'il nous dit Aksiru zikra hadhi min laddat. Aksiru zikra hadhi min laddat. Rappelez-vous constamment de ce qui brise le plaisir, al-maut. Ceci dit, mes chers frères et sœurs, à partir du moment où nous savons que la mort viendra à chacun d'entre nous, qu'avons-nous préparé? Mada a'dadna laha? Une question qui doit se poser à chacun d'entre nous. À partir du moment où nous savons que la mort viendra, nous atteindra, avec quoi allons-nous rencontrer notre Seigneur subhanahu wa ta'ala? Allah azza wa jalla ne nous a-t-il pas dit? Wa tazawwadu fa inna khayra az-zad at-taqwa. Approvisionnez-vous car la meilleure des provisions, c'est la crainte. At-taqwa. S'approvisionner en action. Comme tel le voyageur al-musafir, le voyageur qui se déplace à un autre endroit, il prend avec lui des provisions. Eh bien nous c'est la même chose, mes chers frères et sœurs. Nahnu fi safar, nahnu fi safarin wa rihla, nahwa rabbina azza wa jal. Nous sommes dans un voyage vers notre Seigneur subhanahu wa ta'ala. Alors quelles sont les provisions que nous avons préparées pour le rencontrer? Ibn Omar disait, dans Sahih al-Bukhari, il dit « Ida amsayta » فلا تنتظر الصباح. Il dit lorsque tu te couches, ne t'attends pas au matin, car il se peut que tu ne te réveilleras pas. وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. Et si tu es levé le matin, tu te lèves le matin, ne t'attends pas ou n'attends pas la soirée. وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. Après ta santé, pense à la maladie, et après ta vie, pense à la mort. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam également nous dit dans un hadith, il dit Inna dunya hulwatun khadira wa inna Allah mustakhlifukum fiha fayanzur kayfa ta'malun fattaqu ad-dunya wattaqu an-nisaa. Inna dunya hulwatun khadira. Ad-dunya, ce bas monde, n'est qu'un sort de pré, sort de jardin tentant. Wa inna Allah mustakhlifukum fiha. Allah va vous laisser dans ce bas monde, il vous l'a donné entre vos mains. فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ. Il verra comment allez-vous agir dans ce bas monde. فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ. Craignez ce bas monde et craignez également les femmes. Avait bien raison ce poète qui disait إِنَّ لِلَّهِ عِبَادًا فُطَنَا طَلَّقُوا الدُّنْيَا وَخَافُوا الْفِتَنَا. إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة. يا pour Allah subhanahu wa ta'ala des serviteurs éveillés. طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة. Ils ont divorcé ce bas monde et ils ont eu peur des fitan. نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا. نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا. Ils ont observé ce bas monde et lorsqu'ils ont su que ce bas monde n'est pas un lieu de résidence. جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. جعلوها لجة. Ils ont fait de ce bas monde un océan. واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. Ils ont fait de leurs actions, de leurs bonnes actions, un bateau ou des bateaux pour traverser cet océan. إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحين وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. Voilà comment nous devons réagir, mes chers frères et sœurs. Car il y aura un grand regret quant à ceux qui se sont laissés aller dans ce bas monde. Tanas wa ghafalu an amr al-akhirah. Ils se sont laissés aller. Ils ont oublié que beaucoup d'entre eux ou beaucoup d'entre nous nous diront au moment où la mort frappe à nos portes, ou bien au moment où nous rencontrerons Allah subhanahu wa ta'ala, nous dirons ya hasrata. يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. Oh combien mon regret quant à mes négligences par rapport au devoir d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors c'est pour cela, mes chers frères et sœurs, nous devons préparer ces provisions pour rencontrer notre Seigneur inshallah, armé et immunisé face à son châtiment et à sa colère. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. Pourquoi ce sujet? En réalité, j'ai choisi ce sujet pour deux raisons. La première raison, c'est qu'il y a beaucoup de questions. Beaucoup de nos frères et sœurs, beaucoup de familles se posent des questions quand il y a un décès. Qu'est-ce que l'islam prévoit? Qu'est-ce qu'il faut faire? Quelle est notre attitude? Que devons-nous faire avec ce défunt? Qu'est-ce qui est permis? Qu'est-ce qui n'est pas permis? Qu'est-ce qui constitue une infraction? Qu'est-ce qui constitue une innovation? Bid'a, tout cela. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison qui m'a poussé à choisir ce sujet, mes chers frères et sœurs, c'est que malheureusement, beaucoup de ceux de familles qui ont été touchés par un décès, ils ne respectent aucune règle. Ils ne se renseignent même pas. Ils préfèrent s'appuyer, retourner aux traditions, coutumes locales, ou à ce que font les gens, les voisins, dans le quartier ou dans le pays, sans se dire, tiens, qu'est-ce que Allah, qu'est-ce que son messager nous demande de faire? Et c'est à ces questions-là, Inch'Allah, et je vais soulever une série de questions maintenant, et à partir de ces questions que je vais soulever maintenant, vous aurez les réponses précises quant à l'attitude, quant au comportement, quant à ce que nous devons faire lorsqu'il y a un défunt dans notre famille. Alors, quelles sont ces questions? La première de ces questions, qui constitueront, Inch'Allah, les angles, les axes, al-mahawir, les axes de notre sujet, la première question, كيف نتعامل مع نبأ مفاده وفاة شخص قريبا كان أم بعيدا. Comment réagir lorsque nous recevons une information quant au décès de quelqu'un? Que ce défunt soit un proche à nous ou une personne éloignée? C'est la première question. La deuxième question, ما هي حقوق الميت قبل وفاته إن كانت وفاته متوقعة. Quels sont les droits du défunt avant qu'il meure? Et vous allez voir que le décès se divise en deux catégories comme nous allons le voir. Donc la personne dont on sait qu'elle va mourir, quels sont nos droits, ou plutôt nos devoirs vis-à-vis de cette personne et ses droits sur nous? Comment devons-nous réagir par rapport à cette personne? Cette personne qui va bientôt quitter ce bas monde, quelle est notre réaction? Troisième question, quels sont les droits du défunt sur nous après sa mort? Quatrième question, la sunna. La sunna authentique, la sunna sahiha, qu'a-t-elle prévu comme attitude que doit adopter la famille du défunt? Qu'a-t-elle prévu quant à la réaction des gens qui sont en dehors de la famille? Et la dernière question, la cinquième, ma hiya al-mukhalafat al-bid'ah allati yartakibuha an-nas fi haqqi mayyitihim. Quelles sont les infractions, quelles sont les innovations que les gens commettent à l'encontre de leur défunt? Voilà, mes chers frères et sœurs, ce sont ces questions-là. Ce sont ces questions-là auxquelles nous allons nous atteler pour répondre durant ce thème, Inch'Allah ta'ala.
Alors, comme je l'indiquais, la mort se divise en deux catégories. Il y a une expression qu'on dit en arabe, on dit Al-asbab muta'addida wal-maut wahida. Al-asbab muta'addida wal-maut wahida. Donc les causes, les facteurs qui mènent vers la mort sont multiples. Mais quant à la mort elle-même, elle est unique. Il n'y a qu'une seule mort. C'est lorsque l'âme quitte la personne. Mais cependant, en général, on divise la mort lorsqu'elle vient en deux catégories. Il y a ce qu'on appelle mautul fash'a. C'est la mort brusque. Quelqu'un qui meurt arrêt cardiaque. Un autre accident de voiture, il meurt sur le coup. Un autre, il meurt noyé. Un autre, il meurt sous un incendie, etc. La deuxième catégorie, ce qu'on appelle al-maut al-mutawaqqa'a. C'est la mort prévue. Une personne qui est gravement malade, qui a un cancer ou autre. Et qu'on sait que cette personne approche kulli bi qadarillah. Tout dépend du destin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais de ce qu'on voit tous les jours, on voit que cette personne approche jour après jour et elle-même, cette personne malade elle-même sent qu'elle approche jour après jour de sa mort, de la fin de ses jours. Alors ici, ça donc ça constitue les deux catégories. Alors comment réagir face à ce genre de nouvelles? Lorsque nous avons une nouvelle qui arrive, et vous savez que l'être humain, par son psychique, nefsiya, l'être humain réagit, son psychique réagit par rapport aux informations. Si l'information est bonne, c'est normal, il est heureux, il a un bon tempérament. Si l'information est mauvaise, il est triste, il est bien sûr accablé par ce problème ou par cette nouvelle, et bien sûr, les signes de la tristesse, alamat athar al-huzn badiatun ala wajhi. Donc les signes de tristesse apparaissent sur son visage, qui est tout à fait naturel, bien entendu. Alors bien sûr ici, lorsque nous apprenons le décès de quelqu'un, l'islam nous exige as-sabr, la patience. As-sabr, la patience, ou l'ihtisab. Et souhaiter la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala par rapport à cette nouvelle qui sans aucun doute dure. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, décrivant le croyant al-mu'min, il dit عجباً لأمر المؤمن إن أمره كله له خير. Ô combien est étonnant de la situation du croyant. Toutes ces situations qu'il atteigne sont un bien pour lui. فإن أصابته سراء شكر وكان ذلك خيرا له وإن أصابته ضراء صبر وكان ذلك خيرا له. Donc si le croyant est frappé, ou plutôt il y a une bonne chose qu'il atteint, un bienfait qui lui parvient, il remercie, chakar, il remercie Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci est meilleur pour lui, comme dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Par contre, s'il est frappé par un malheur, une calamité, sabar, il patiente. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu un jour une femme près d'une tombe, en train de pleurer. Et il lui a enjoint la patience, le sabr et l'ihtisab. Cette femme, bien sûr, était choquée. Elle n'a pas reconnu le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Alors, lui a dit, si c'était toi qui avais eu ce défunt, à la place, tu n'aurais pas dit ce que tu es en train de dire maintenant. Le prophète est parti. Les compagnons lui ont dit, chère femme, sais-tu à qui tu t'es adressé avec ta voix vive? Tu t'es adressé au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Alors, bien sûr, elle était, bien entendu, un peu choquée. Un peu, elle s'est remise en question et elle est partie voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour s'excuser. Et c'est là que le prophète lui a dit innama sabru 'inda sadmatil ula. La patience, la véritable patience lors du premier choc, lorsque l'information vient dès le début, nous devons la budda an nuwattina anfusana 'ala as-sabr. Nous devons dès le début nous accrocher et bien sûr faire preuve de patience. Et Allah subhanahu wa ta'ala promet, mes chers frères et sœurs, promet à celui qui fait preuve de patience. À celui qui fait preuve de patience lorsqu'il est touché par ce genre d'information, le décès. Patient, et en plus de ça, l'ihtisab, il souhaite la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce que lui promet Allah subhanahu wa ta'ala? Allah lui promet le paradis, al-jannah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith, il dit ma li 'abdil mu'min 'indi jaza' idha qabadtu safiyahu min ahli ad-dunya thumma ihtasabahu illa al-jannah. Je n'ai de récompense pour mon serviteur croyant qui lorsque j'arrache l'âme de l'un de ses bien-aimés de ce bas-monde et qui patiente et qui souhaite la récompense par cette patience, il n'aura comme récompense que le paradis, el-jannah. Alors on voit ici que notre patience face aux douleurs, mes chers frères et sœurs, c'est une patience qui sera récompensée par Allah subhanahu wa ta'ala, par le paradis, inshallah. Et bien sûr, lorsque cette nouvelle arrive, le prophète nous a appris une invocation. Il nous a appris à dire une phrase qu'il a dit à Umm Salama, radiallahu anha, lorsque son époux Abu Salama est décédé. Cette phrase, vous la connaissez, Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, et dire également Allahumma ajirni fi musibati wa khlif li khairan minha. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Donc inna lillahi, nous appartenons à Allah subhanahu wa ta'ala, wa inna ilayhi raji'un, et c'est vers lui que nous allons retourner. Allahumma ajirni fi musibati, Allahumma ajirni fi musibati, oh mon Seigneur, récompense-moi dans mon malheur. Wa akhlif li khayran minha, et donne-moi en échange ce qui est meilleur. Umm Salama avait dit ça, et Umm Salama radiallahu anha, tellement qu'elle aimait son époux, tellement qu'elle avait un époux modèle, elle ne pensait plus avoir un époux comme lui. Elle pensait qu'elle n'aura plus un homme comme lui. Et le prophète lui a pris cette invocation. Et pour finir, qui est devenu son époux? Le prophète s'assied lui-même. Regardez cette excellente récompense qu'Allah lui a donnée à cette femme. Radiallahu anha. Donc vous voyez ici ce qu'il faut dire, inshallah, face à ces moments donc difficiles. Et ceux qui sont patients, endurants, qui supportent, Allah leur promet aussi une récompense qui n'a pas de limite. Il dit dans le Coran, إِنَّمَا يُوَفَّ الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ. إِنَّمَا يُوَفَّ الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ. Allah certes donnera une récompense sans limite à qui? À ceux qui sont patients, qui font preuve de patience. Alors, que devons-nous faire? Quelle attitude adopter envers quelqu'un dont on sait qu'il va bientôt mourir? Je ne parle pas de celui qui est mort sur le coup, donc il y a donc une mort subite, brusque, al-maut al-faj'a. Ça, on verra ce qu'il faut faire après. Mais maintenant, quelqu'un qui, on sait qu'il va bientôt mourir, que faut-il faire? Sans aucun doute, mes chers frères et sœurs, cette personne malade, qui sait qu'elle se rend progressivement vers la mort, eh bien c'est un moment très difficile. Car elle voit autour d'elle, cette personne observe les gens qui sont autour d'elle et elle se dit, je vais bientôt les quitter. Psychologiquement, c'est très difficile à supporter. Donc, alhamdoulilah, nous en tant que musulmans, on a l'iman, notre foi en Allah subhanahu wa ta'ala, notre foi en sa promesse, azza wa jal, nous rassure énormément. Dans les hôpitaux ici en Occident, ils prévoient bien sûr un psychologue. Ce qui est normal. Parce que l'occidental n'a pas ces notions de iman, de foi, que nous avons. Donc ils prévoient un psychologue, et lorsqu'ils savent que la personne est condamnée, qu'elle va mourir, ils ne lui disent pas directement. Ils la préparent, petit à petit, jour après jour, ils la préparent, pour lui annoncer la nouvelle, voilà, monsieur, madame, vous allez terminer vos derniers jours. Hanan, nous, alhamdoulilah, n'a pas ça. Hanan, cette préparation psychologique, notre foi, l'iman, notre foi nous le donne depuis le début. Depuis le début, nous sommes, comme on dit, aguerris. Nous sommes rodés par la foi. Nous sommes rodés à accepter n'importe quelle situation qui nous frappe. Et on dira toujours, alhamdoulilah, toujours. J'ai rendu visite l'an dernier à un frère, subhanallah, 7 ans, il est encore vivant jusqu'à nos jours, un frère qui avait le cancer. Et quand je lui ai rendu visite, je ne l'ai pas reconnu, le frère, parce qu'il avait tellement maigri que du coup, je ne l'ai pas reconnu. Al-Shahid, lorsque j'ai discuté donc avec lui, je lui ai dit, Inch'Allah, patience, etc. Je lui ai dit, comment tu te sens? Il a dit sa réponse, une réponse d'un croyant, mu'min. Avec un grand sourire, il m'a dit, Alhamdulillah. Il dit, je remercie Allah subhanahu wa ta'ala pour tout ce qu'il m'a donné. Voilà, il n'y a pas de dépression nerveuse. Il n'y a pas pourquoi moi et pas quelqu'un d'autre. Il n'y a rien de tout ça. Voilà, alamatul iman. Il accepte, il se soumet, il s'estime. L'islam, c'est ça que veut dire l'islam. L'islam, c'est se soumettre à Allah, c'est se soumettre à son destin, c'est se soumettre à tout ce qu'il nous donne. Voilà, pas plus. Donc cette personne, sans aucun doute, qui arrive à ce stade. Ici, je tiens à faire une petite indication avant de démontrer l'attitude que nous devons adopter envers cette personne. Et souvent, on fait relation avec ce qu'on appelle l'euthanasie. En islam, il n'est pas permis à un croyant de souhaiter la mort. Humadaba maintenant, dans le, ici en Occident, c'est un grand débat. Le problème de l'euthanasie, de gens qui souffrent énormément, et soi-disant, au nom de l'humanisme, al-insaniya, il faut lui mettre fin à ses jours, lui mettre une bonne seringue, et on en termine une fois pour toutes. Alors qu'en réalité, il y a d'autres comptes qui sont à côté, et on a même des médecins et des infirmières qui peuvent le démontrer, qu'il n'y a pas seulement humanisme, insaniya, mais il y a d'autres, et aussi l'argent dans l'histoire. Ça coûte trop cher les soins pour cette personne. C'est un lien en plus. Alors vite, on s'en débarrasse, et après ça, on est tranquille. Alors ici, bien sûr, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit, dans un hadith, il dit, « La yatamanyanna ahadukum al-maut li durrin nazala bih » dit que personne d'entre vous ne souhaite la mort à cause d'un malheur qui le frappe. Ensuite, il dit, « Fa in kana la budda mutamanniyan » mais si vraiment il souhaite la mort, parce qu'il souffre trop, par exemple, s'il devait le souhaiter, alors le prophète nous apprend une invocation. Il dit, فليقول qu'il dise, que ce croyant dise, cette croyante dise, اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إن كانت الوفاة خيرا لي. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, ô mon Seigneur, donne-moi la vie, prolonge de ma vie si la vie est un bien pour moi, et mets un terme, وتوفني إن كانت الوفاة خيرا لي, et mets un terme à ma vie si tu vois que c'est bien meilleur pour moi. Donc on renvoie tout cela Allah subhanahu wa ta'ala. On ne prend pas la décision nous-mêmes. On la renvoie à Allah azza wa jalla. Il décide à notre place subhanahu wa ta'ala. Alors la première chose, mes chers frères et sœurs, que nous devons faire comme attitude envers cette personne qui souffre, envers cette personne qui est malade, envers cette personne qui sait qu'elle s'oriente progressivement vers la mort, al-maut, elle a besoin d'un cadre familial, al-itar al-a'ili. Et ça, alhamdoulilah, ça existe. Ça, alhamdoulilah, dans les familles musulmanes, c'est présent. La personne qui est malade, qui est souffrante, alhamdoulilah, elle est bien entourée. Alors que le drame, les occidentaux, dans beaucoup de cas, c'est le contraire. Tu rentres dans la chambre, il y a une personne près de lui. Maintenant, lorsqu'on rentre, c'est à 15-20. C'est des légions, des bataillons. C'est la différence entre les deux. Ça, c'est le premier cadre, la première chose. C'est qu'il sente qu'il y a des gens autour de lui. Parce que Shaitan, Allah subhanahu wa ta'ala, mes chers frères et sœurs, dans le Coran dit, dans surat al-Nisa, wa khuliqa al-insanu da'ifa, l'être humain a été créé faible. Shaitan peut tromper cet être humain. Lui dire, regarde comment t'es, dans quel état tu es. Espère la mort, ceci, cela, ukfur billah. Et il y a beaucoup de récits de ce sujet où Shaitan, Iblis, vient à la dernière minute pour essayer de sortir cette personne de l'islam. Mais lorsque la personne voit qu'il y a autour de lui des gens, de la famille, des proches, des amis, des frères qu'il apprécie et qu'il aime, eh bien ça peut beaucoup alléger ses souffrances et sa douleur. Ça c'est une chose. La deuxième attitude à avoir, mes chers frères et sœurs, عَدَمُ تَذْكِرِهِ بِمَرَدِهِ, ne pas lui parler de sa maladie. Vous avez compris ça? Donc lorsque vous venez, c'est cette personne malade, souffrante, qui s'oriente progressivement, jour après jour, minute après minute, seconde après seconde, elle s'oriente vers la mort, ne lui parlez pas de sa maladie. Parce que vous risquez de la faire souffrir encore plus. Elle va souffrir quand on lui rappelle ce qu'elle ressent. Mais la personne va souffrir encore plus. Ne pas parler de ça. Parlez d'autre chose, et c'est ce qu'on va voir maintenant. Lui rappeler, troisième attitude, lui rappeler, تذكيره برحمة الله الواسعة, lui rappeler la largesse de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est important. Et qu'il ne meure qu'en ayant confiance, en étant dans un état de confiance par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à ce niveau, il dit, لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله تعالى, que l'un d'entre vous ne meure qu'en ayant, comment dire, une confiance totale en son Seigneur. Pas qu'il meure en disant, c'est tout, moi je suis foutu, je suis condamné, c'est bon, je vais en enfer, c'est terminé. Non. Tu meurs et tu espères. Et bien sûr, bien entendu, lorsque nous disons espérer, ar-raja, n'empêche pas qu'on ait peur de nos péchés. Et c'est ça la vraie foi en réalité. C'est que lorsque la personne sent qu'elle va mourir, c'est bien qu'elle ait peur de ses péchés, mais qu'en même temps, elle souhaite, tarjou, elle souhaite la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith Hassan, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est rentré, il a rendu visite à un jeune qui était sur le point de mourir. Alors il lui a dit, كيف تجدك, comment te sens-tu? Alors il dit, wallahi rasulallah, inni arjullah وإني أخاف ذنوبي. Il dit والله يا رسول الله certes au messager de Dieu d'Allah subhanahu wa ta'ala إني أرجو الله je souhaite Allah subhanahu wa ta'ala je souhaite le pardon d'Allah عز وجل وإني أخاف ذنوبي et j'ai peur de mes péchés. Et c'est là que le prophète lui répond لا يجتمعان في قلبي عبد لا يجتمعان في قلبي عبد في هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه مما يخاف. لا يجتمعان donc ne se réunissent pas dans le cœur de cette personne qui souhaite la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala et deuxièmement qui a peur de ses péchés, parce que ces deux choses se réunissent dans le cœur du serviteur en ce moment fatidique avant la mort. Eh bien Allah lui donne أعطاه الله ما يرجو, Allah lui donne ce qu'il souhaite. وأمنه مما يخاف et il le met à l'abri de ce qu'il a peur. Voilà, c'est ça la confiance envers Allah subhanahu wa ta'ala et c'est comme ça qu'on doit réagir. Quatrième attitude qu'il convient d'adopter, ne pas se préoccuper devant lui de la dunya, pas commencer à parler de dunya devant lui, de ce bas monde. Je me souviens avoir rendu, il est décédé rahimahullah, avoir rendu visite à un frère il y a 2 ans de cela qui était donc en phase terminale de cancer. Et je lui ai rendu visite à la maison, à son domicile, et j'étais choqué de voir que ses proches, donc ses frères à lui, ses cousins, ses oncles, subhanallah, comme si monsieur, le frère en question, demain, il allait se remettre debout, il allait au marché, je ne sais où, acheter des voitures, etc. Ils sont partis dans une discussion de commerce, oui, un tel a acheté une voiture, l'autre il a vendu sa maison. Alors bien sûr, pour pas frusquer cette famille, je les ai laissés dire, discuter le reste bien entendu. Et dès qu'ils ont fini, ils ont commencé à sortir les uns après les autres. Je suis resté le dernier. Et lorsque je suis resté le dernier, je suis venu vers donc ce frère qui est malade. Je lui ai dit, Habib, je vais te faire une wasiya, une recommandation. Essaie de la prendre, inshallah. Alors Miskin est très souffrant, rahmatullah alayh. Il écoute attentivement, il dit Naam, je fais akthir min al-du'a, insiste dans tes invocations, akthir min al-istighfar, insiste dans ta demande de pardon, subhanahu wa ta'ala, ahsin al-dhan bi rabbik, fais en sorte que tu aies une confiance totale en ton Seigneur, subhanahu wa ta'ala, harrik lisanak, ashghil lisanak, dit travaille ta langue par le rappel d'Allah, subhanahu wa ta'ala, ne t'occupe pas de la dunya, occupe-toi de ce par quoi tu vas rencontrer ton Seigneur, azza wa jal. Et c'est à ça qu'il faut faire attention, mes chers frères et sœurs, de faire en sorte que lorsqu'on est près de cette personne malade, souffrante, qui s'oriente progressivement vers la mort, de ne pas parler de dunya devant lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith rapporté par Muslim, d'après Umm Salama, qu'est-ce qu'il dit, sallallahu alayhi wa sallam? Il dit, إذا حضرتم المريض أو الميت, فقولوا خيرا فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. Il dit, si vous êtes près de votre personne malade ou de près du défunt, فقولوا خيرا, ne dites que du bien, car les anges disent amin concernant ce que vous dites. Donc cela veut dire que il est important, mes chers frères et sœurs, de rappeler cette personne ce devoir par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala. Cinquième attitude, de rappeler au défunt ou au prochain s'il est bientôt vers ce chemin là de se libérer de toute injustice qu'il aurait commis envers quelqu'un d'autre. Qu'il pardonne les gens. S'il a pris des biens de quelqu'un, qu'il le remette. S'il a accusé quelqu'un à tort et à travers, qu'il s'excuse. Bref, lui qui se libère de cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith dit « Man kanat indahu maghlamatu li akhi fal yu'addiha ilayh qabla yati yawm al-qiyamah la yuqbalu fihi dinar ou la dirham. » Il dit, celui qui a une injustice envers son frère, tu vois, min irdihi aw malih, dans sa personne, par accusation, ou par faux témoignage ou autre, ou dans ses biens, il a pris ses biens justement, falyu'addih ilayh, qu'il remette le droit et les dûs des gens. Qabla an ya'ti yawm al-qiyamah, la yuqbalu fihi dinarun wala dirham. Avant que vienne le jour du jugement dernier, où on n'acceptera ni dinar ni dirham, rien ne sera accepté. Yom al-Qiyamah, tu ne pourras pas dire, viens à toi, je te devais 500 dans ce moment, tu seras maintenant. Non, c'est fini. Écoutez ce que dit le prophète encore plus grave. Il dit, فَإِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أُخِذَ مِنْهُ وَأُعْطِيَ صَاحِبُهُ. S'il a de bonnes actions, tu ne t'es pas libéré de ton injustice envers quelqu'un dans ce bas monde, يوم القيامة si tu as des bonnes actions, on prendra de tes bonnes actions et les donnera à cette personne. وإن لم يكن له عمل صالح أخذ من سيئاته فحملت عليه. Et s'il n'a pas de bonnes actions, on prendra des sayyats, des péchés de ces personnes qui ont été victimes de son injustice et on les lui donnera. Voilà. Donc c'est ce qu'il faut rappeler à ces personnes qui s'orientent vers la fin de leur jour de se libérer de toute injustice ou de tout bien qu'ils auraient pris d'une personne, de s'acquitter de cela. Sixièmement, ou sixième attitude à adopter, mes chers frères et sœurs, un yudakar bi an yusi li ahlih. Rappeler à ce malade qu'il fasse une recommandation à sa famille ou qu'il leur donne d'écrire une recommandation. Wasiya. Bien sûr, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit kutiba alaykum idha hadara ahadukum al-maut in taraka khayran al-wasiya. Allah a prescrit que lorsque l'un d'entre vous, lorsque la mort vient vers l'un d'entre vous, la meilleure chose qu'il peut laisser, c'est un testament. Wasiya. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parlant du testament, dit ma haqqu imri'in muslimin له شيء يوصي به يبيت ليلة إلا ووصيته مكتوبة عنده متفق عليه. Il dit si un croyant a quelque chose à léguer sous forme de testament, eh bien il ne peut pas passer deux nuits sans la transcrire, sans qu'elle soit transcrite chez lui. Et Ibn Omar, il le relatait dans certains affaires qu'Ibn Omar, lorsqu'il a entendu cela, il a tellement paniqué qu'il s'est mis à écrire son testament, il le mettait sous son oreiller. Alors bien sûr, les savants, les savants disent que cette parole prophétique, ou lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous ordonne d'écrire, ou plutôt nous indique et nous précise d'écrire ce testament, ils disent al-amr huna mahmoul al-istihbab. En général, c'est recommandé. Donc c'est pas obligatoire que dès maintenant tu te mets à écrire, non. Cependant, ceci nous pousse à nous parler du testament même, al-wasiyya. Donc rappelez-vous que l'une des attitudes que nous devons avoir envers cette personne malade, envers cette personne qui s'oriente vers la fin de ses jours, que si elle a un testament à faire, c'est le moment. Al-wasiyya, mes chers frères et sœurs, se divise en deux catégories. Il y a al-wasiyya al-wajiba et al-wasiyya al-mustahabba. Il y a le testament obligatoire et le testament recommandé. Quant au testament obligatoire, c'est si cet individu, ce malade, cette personne malade, cet homme ou cette femme a des dettes ou a des biens qui sont chez elle et qu'il doit remettre à quelqu'un, ou encore il y a des salaires ou autre, n'importe quel bien qu'il a en sa possession qu'il doit remettre à quelqu'un, eh bien ça, il faut mettre ça par écrit, clairement. Mettre ça par écrit clairement afin qu'après son décès, ses héritiers se mettent au travail pour remettre chacun son dû. Et ça, c'est très important, comme nous allons le voir, Inch'Allah, plus loin lorsque nous parlerons de l'obligation de vite exécuter, ou plutôt de vite remettre les dettes des personnes qui sont défuntes, comme nous allons le découvrir, Inch'Allah. Quant à la recommandation recommandée, plutôt quant au testament recommandé, al-wasiyya al-mustahabba, c'est lorsque l'un d'entre nous, qui aurait, Allah, lui aurait ouvert les portes du bien, de ce bas monde, bien sûr, et qui aurait beaucoup d'argent et qui pense à quelqu'un qui est dans des difficultés ou orphelin ou autre, et qu'il voudrait faire un testament pour lui, donc lui léguer un don, hiba. Alors ici, il y a deux critères respectés. Si tu veux, cher frère et sœur, tu as des biens, tu veux laisser un don pour quelqu'un, eh bien c'est de respecter deux critères. Le premier critère, c'est que cette recommandation ou ce testament ne peut pas aller en direction d'un héritier. Ça, c'est interdit. Un héritier qui a droit à l'héritage ne peut pas recevoir en plus de cela un legs, un don. Il ne peut pas. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, min hikmati shari'a, parmi la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est que Allah azza wa jalla vise ou veille à ce qu'il n'y ait pas de haine et de animosité entre les gens. Demain, cette personne meurt et que demain on vient distribuer l'héritage et que les gens apprennent que Omar, l'un des héritiers, en plus de sa part d'héritage, il a reçu un don du même défunt, ça va être la guerre entre eux. Pourquoi lui et pas nous? Alors c'est pour cela que Al-Wasiyya, mes chers frères et sœurs, Al-Wasiyya, le prophète dit, on va voir le hadith, La wasiyyata liwarith. C'est un hadith sahih, sahih Cheikh Al-Albani. La wasiyyata liwarith. Il n'y a pas de testament, il n'y a pas de don, donc testamentaire pour un héritier, pas question. Et le deuxième critère dans ce testament recommandé, c'est que le montant qu'il va donner ne dépasse pas le tiers, la thuluth, ne dépasse pas le tiers de ce qu'il laisse derrière lui. On a ce sujet à hadith. Hadith rapporté par Ahmed, Bukhari, etc., Muslim et autres, du compagnon Sa'd bin Abi Waqqas. Le compagnon Sa'd bin Abi Waqqas, qui après Hujjatul Wada', après le pèlerinage d'adieu, est tombé malade, gravement malade. Le prophète lui a rendu visite, sallallahu alayhi wa sallam. Alors qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit à Rasulullah. Il dit Inna li malan kathiran, wa laysa yarithuni illa ibnati. Dit j'ai beaucoup d'argent. Et je n'ai qu'une seule personne comme héritière. C'est ma fille. Alors il dit Afa usi bi thuluthay mali, puis-je léguer en don testamentaire les deux tiers de mes biens ? Le prophète lui dit là, non. Fashatru mali, puis-je léguer en don testamentaire la moitié de mes biens ? Le prophète lui répond là, non. Troisième fois, troisième phase. Afa aussi bi thuluthi mali, puis-je léguer le tiers de mes biens comme don testamentaire ? Le prophète lui répond thuluthu wa thuluthu kathir. Donc il approuve. Il dit d'accord pour le tiers, et même le tiers c'est beaucoup. Mais ça passe, il n'y a pas de problème. Donc de là, les savants, Ahlul Ilm, on en déduit que dans le testament Al-Wasiyya, fil Hiba, lorsqu'on donne un leg ou un bien quelconque à quelqu'un d'autre, eh bien il ne faut pas que ça dépasse le tiers. On a vu donc ce hadith, et je vous rappelle le hadith où le prophète dit qu'il n'y a pas de testament, il n'y a pas de don pour quelqu'un un héritier. Dans un hadith, il dit Inna Allah qad a'ta kulli dhi haqqin haqqahu. Allah a donné à chacun son dû. Et il n'y a pas de wasiya, il n'y a pas de recommandation, il n'y a pas de testament pour quelqu'un qui est héritier. C'est exclu. Il est aussi recommandé, mustahab, que le mort, ou plutôt le malade, recommande qui va le laver. Ça, c'est permis. Donc, quelqu'un qui sait qu'il va mourir, il peut recommander et dire voilà, je voudrais qu'un tel, c'est lui qui me lave, c'est lui qui s'occupe de mon lavage. Donc, mon lavage mortuaire. On a ce sujet, un athar dans Tabaqat al-Kubra d'Ibn Sa'd, bisanad sahih, d'après Anas ibn Malik radiallahu anhu arda, qui a recommandé, qui a fait un testament, il a dit je veux que Muhammad ibn Sirin, et Muhammad ibn Sirin qui est un tabi'i, un grand tabi'i, je veux que Muhammad ibn Sirin, c'est lui qui me lave après mon décès. Et il est important de rappeler que Mohammed ibn Sirin était connu, avait une très grande réputation dans ce qui est ce qu'on appelle fiqh ou ras al mauta. Donc les côtés jurisprudentiels du lavage des morts, lavage mortuaire, Ibn Sirin était très connu pour ça. Parce qu'il a eu un excellent professeur, qui était une femme d'ailleurs, qui est Umm Atil Ansariya. Umm Atil Ansariya, qui c'est elle qui a lavé Zainab, la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qui s'y connaissait très bien donc en la matière. Et mes chers frères et sœurs, la plus grande wasiya, le plus grand testament, la plus grande recommandation que nous pouvons faire, ou que quelqu'un de malade, souffrant, qui sait qu'il va mourir, qu'il peut faire à ses proches, an yusihim bi taqwallah azza wa jal, an yusihim bil istimsak bil islam. Ça, c'est la plus grande recommandation que tu peux faire à tes proches. La plus grande recommandation que tu peux faire à tes proches, c'est qu'ils craignent Allah subhanahu wa ta'ala après ta mort. Qu'ils craignent Allah azza wa jal, qu'ils s'accrochent à l'islam. Voilà la plus grande recommandation. Allah nous dit dans le Coran, nous parlons d'Ibrahim et d'Yaqub, lorsqu'il nous dit wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub ya bunayya inna Allah astafa lakum ad-din fala tamutunna illa wa antum muslimun. وصى بها إبراهيم وبنيه ويعقوب. إبراهيم عليه السلام a recommandé à sa famille, ainsi que Yaqub عليه السلام. Ils ont recommandé à leur famille de se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala, l'islam. يا بني إن الله اصطفى لكم الدين. Mes enfants, Allah vous a choisi une religion. فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ne mourrez qu'en étant musulmans. Et la suite du verset, Am kuntum shuhada id hadara Yaqub al-maut id qala li banihi ma ta'buduna min ba'di قالوا نعبد إله أبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. أم كنتم شهداء إتيفو تيموا إذ حضر يعقوب الموت لسك لا مور فان أو بروفيت يعقوب إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي لسكي دي أسيز أنفان كاليفو أدوري أبخي موا قالوا نعبد إلهك nous allons adorer ton Seigneur, ton Dieu. وإله أبائك ainsi que le Dieu et le Seigneur de tes pères إبراهيم إسماعيل إسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. Nous adorons qu'un seul, التوحيد unicité. Voilà la plus grande wasiya qu'ils ont laissé derrière eux. إلها واحدا ونحن له مسلمون. Un seul, une seule divinité et nous nous soumettrons à lui non complètement. Ça c'est la plus grande recommandation. Et il est relaté dans certains athars, je vais vous lire d'ailleurs ici, certains compagnons, radiallahu anhum ardahum, comme il est relaté par l'imam Abdurrazzaq dans son Musannaf, ainsi que Sa'd ibn Mansour dans son Sunan, et le Bayhaqi également dans son Sunan, bi sanadin sahih. Je vais vous lire ici maintenant la recommandation que certains compagnons, radiallahu anhum ardahum, et qui sont un modèle pour nous après le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'ils recommandaient lorsqu'ils écrivaient un testament, qu'est-ce qu'ils mettaient dedans. Écoutez bien. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. هذا ما أوصى به فلان ابن فلان. Donc بسم الله الرحمن الرحيم au nom de Dieu le clément le miséricordieux. Ceci est ce que recommande un tel fils d'un tel. يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. Celui qui recommande, qui fait ce testament, il atteste qu'il n'y a de divinité qu'Allah et que Muhammad est son serviteur et son messager. وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور وإن الله يبعث من في القبور et que l'heure viendra sans aucun doute et qu'Allah fera ressusciter ceux qui sont dans les tombes. وأوصى من ترك من أهله أن يتقوا الله et il recommande à ceux qu'il va laisser parmi sa famille qu'ils craignent Allah عز وجل ويصلحوا ذات بينهم qu'ils fassent en sorte qu'ils entretiennent de bonnes relations entre eux et qu'ils règlent leurs différends, c'est-à-dire familiaux. وَيُطِيعُ اللَّهُ وَرَسُولَهُ إِنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ et qu'ils obéissent à Allah et à son messager s'ils sont véritablement croyants. وَأَوْصَاهُمْ بِمَا أَوْصَى بِهِ إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ et il le recommande également, donc ce défunt recommande également, ce compagnon recommande également, ou ses compagnons, il le recommande également ce que recommandaient Ibrahim et Yaqub à leurs enfants. Les versets que j'ai cités là tout à l'heure. Ça, c'est un très bon modèle. C'est un exemple typique de ce qu'est le testament, de la meilleure façon qui est de recommander l'obéissance et de craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, bien sûr, maintenant que nous voyons aussi, avant la mort, avant le décès, que devons-nous faire lorsque la personne est en train d'agoniser? Lorsque la personne est en train d'agoniser, quelle est notre attitude? Que faire? Talqin al-shahada. C'est quoi talqin al-shahada? Lui faire prononcer la shahada. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à ce sujet, il dit laqinu mawtakum la ilaha illallah. Laqinu mawtakum la ilaha illallah. Faites prononcer à vos défunts la parole la ilaha illallah. Et l'important de cette parole, qui est la parole du tawhid, l'unicité, se retrouve dans un autre hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. Celui dont sa dernière parole dans ce bas monde, avant qu'il quitte ce bas monde, la dernière parole avec laquelle il a terminé ses jours, c'est la ilaha illallah, il entrera au paradis, inshallah. Ça c'est lorsque la personne agonise. Lorsque l'âme quitte le corps de la personne, c'est tout. Ses jours sont terminés. Que devons-nous faire? Premièrement, fermer ses yeux. Fermer les yeux de ses défunts. Parce qu'il laisse ses yeux ouverts et ses yeux restent fixés en direction de l'âme, l'âme qui quitte. Mais en fait, son regard suit l'âme qui est en train de partir. Et là, ses yeux, son regard, lorsque vous regardez quelqu'un qui meurt, vous allez voir qu'il a un regard fixe. Ce regard fixe, en réalité, est en train de suivre son âme qui part. Ça, c'est le prophète qui le dit, sallallahu alayhi wa sallam. Il est dans ce hadith, Umm Salama, il dit... Donc le prophète est entré, parce qu'Abu Salama qui était décédé était malade, gravement malade. Dakhala Rasul Sallam ala Abi Salama wa qad shaqqa basara. Donc il est entré auprès d'Abu Salama et il a vu qu'Abu Salama son regard restait fixe. ses yeux sont restés ouverts. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a fermé ses yeux. فَأَغْمَدَهُ ثُمَّ قَالْ إِنَّ الرُّوحَ إِذَا قُبِلَ تَبِعَهُ الْبَصَرْ. Il dit, lorsque l'âme est saisie, le regard le suit. Donc il faut fermer les yeux, bien entendu. Deuxième chose à faire, c'est couvrir le corps. Le couvrir. Avec un tissu ou un drap pour couvrir tout le corps. Et aussi, ce qui est aussi demandé, et ça par rapport à cette couverture qu'il faut faire, on a un hadith de Aïcha. Nous avons un hadith de Aïcha radiallahu anha, où lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est décédé, qu'est-ce qu'elle dit Aïcha? Elle dit Sujiya bi burdin habira. Donc il était couvert par un sort de cape en quelque sorte, un habit, un vêtement qui a couvert tout le corps. Et certains savants, Ahlul Ilm, recommandent aussi d'attacher le menton, car quelquefois la bouche s'ouvre toute seule et ce n'est pas une très belle image à voir. Ce n'est pas une très belle image, c'est pour ça qu'on recommande d'attacher, donc de passer par la tête, donc autour du menton, donc un tissu pour attacher, pour éviter que la bouche ne s'ouvre et que ça fait donc une mauvaise image, une mauvaise impression quand on voit la personne, elle peut nous effrayer. Aussi, il est permis d'embrasser le défunt. Le prophète l'a fait, sallallahu alayhi wa sallam, comme le dit Aïcha radiallahu anha, lorsqu'il est entré auprès de Uthman ibn Maz'oun, qui était décédé. Donc, دخل على Uthman ibn Maz'oun, هو ميت. فقبله. Ensuite, Aïcha dit, ورأيت دموعه تسيل. Donc, elle dit que le prophète, Aïcha dit que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est entré auprès de ce compagnon qui était décédé, Uthman ibn Maz'oun, le prophète l'a embrassé. Et Aïcha dit, j'ai vu ses larmes descendre, les larmes du prophète descendre par tristesse. Abu Bakr radiallahu anhu a fait la même chose. Abu Bakr, lorsqu'il a vu que le prophète était décédé et qu'il venait de l'autre côté, il venait de l'autre côté de la ville de Médine, il est entré dans la demeure du prophète, il a soulevé donc le drap qui le couvrait, le vêtement, et il l'a embrassé. Donc embrasser le défunt, il n'y a aucun problème à ça. Mais pas faire confiance à certains ignorants. Ils s'accrochent au corps. Voyez-vous, ils s'accrochent au corps, ils se mettent à hurler, à crier. Ça c'est min amri jahiliya. Ça n'a rien à voir avec l'islam, comme nous allons voir inshallah. Et aussi dans ce moment de décès, il est permis bien sûr de dire, comme l'a enseigné le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète lorsqu'il a vu Abu Salam a décédé, il a fait une invocation. Il a dit Allahumma aghfir li Abi Salama warfa' darajatahu fil mahdiyyin. Allahumma aghfir li Abi Salama. Donc ô mon Seigneur, pardonne Abu Salama, warfi' darajatahu fil mahdiyyin, et élève ses degrés dans le paradis auprès de ceux qui sont bien guidés, wa akhlif lahu fi 'aqibihi fil ghabirin, et donne-lui une succession, une descendance dans les jours à venir, wa aghfir lana wa lahu ya rabb al 'alamin, wa afsih lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fihi. Donc waghfir lana wa lahu, et pardonne-nous à lui, ya rabb al 'alamin, ô notre Seigneur, ô Seigneur des mondes, wa afsih lahu fi qabrihi, et élargis dans sa tombe, wa nawwir lahu fihi, et donc éclaire et fait en sorte que sa tombe soit éclairée. Alors quels sont, mes chers frères et sœurs, quels sont, maintenant que la personne est décédée, qu'est-ce qu'il faut faire, ou plutôt quels sont les droits, huquq al-mayyit, quels sont les droits du mort, du défunt sur les vivants? Maintenant il est mort, il a des droits sur nous, que devons-nous faire? Premièrement, préparer ses funérailles, c'est la première chose, et ça cela inclut bien sûr de le laver, de désigner quelqu'un, en général ce sont les proches qui s'occupent de ça, de donner quelqu'un qui puisse le laver, s'occuper de tout ce qui est linceul, donc sa tombe, al-qabr, et tout ce qui s'ensuit. Pourquoi? Parce que nous avons un hadith où Umu Atiyya al-Ansariya, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est entré auprès d'Umu Atiyya lorsque sa fille Zainab est décédée. Alors qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, sallallahu alayhi wa sallam, اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيت ذلك إن رأيتن ذلك واجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من الكافور. Le prophète était entré auprès de Umm Atiyya qui se préparait à laver sa fille, la fille du prophète Zainab, et lui dit, lavez-la trois fois ou cinq fois ou plus que cela si vous voyez cela, Faites en sorte que la dernière chose que vous allez utiliser pour laver la personne, c'est ce qu'on appelle el-kafour. El-kafour, c'est une sorte de parfum qui parfume le corps et qui fait fuir donc les mauvaises odeurs. Aushem el-kafour. Donc ça, c'est la première chose qu'il faut faire. Il est aussi recommandé à ceux qui lavent de garder le secret. Car il se peut que la personne qui lave voit des choses. Il voit des choses anormales. Silence. Le hadith suivant, le prophète le précise, sallallahu alayhi wa sallam, il dit « Man ghassala mayyitan » hadith sahih rapporté par le hakim « Man ghassala mayyitan fa katama amrah »« Ghafarallahu lahu arba'ina marrah » Celui qui lave un mort et qui garde le silence sur certaines choses qu'il voit du mort, Allah lui pardonne 40 fois. Donc, beaucoup de gens relatent des gens qui s'occupent de laver les défunts, donc les morts. Et ceux qui ne racontent pas en détail, ils ne racontent pas ce qu'ils ont vu, mais ils disent qu'ils ont vu des choses. Allah donne certains signes sur ce défunt. Alors on te demande de ne pas le divulguer. Gardez le silence. C'est tout. Amruhu ilallah. Donc ça c'est concernant la préparation. La préparation, mes chers frères et sœurs, donc de sa toilette mortuaire et de son enterrement. Quant au hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Asri'u bil janaiz » Précipitez-vous concernant le cortège funèbre. « Fa in taku saliha fa khayrun tuqaddimuna lah wa in takun ghayra dhalik fa sharrun tada'unahu an aktafikum » Il dit « Précipitez-vous à enterrer vos défunts, car soit c'est quelqu'un de pieux, alors c'est un bien que vous lui donnez parce qu'il va retrouver le résultat, le bénéfice de sa piété, le gain de sa piété va le retrouver dans sa tombe. Ou in taku ghayra dhalik, et si ce défunt n'est pas quelqu'un de pieux, fa sharrun tada'una an aktafikum. Et si ce défunt est quelqu'un de pervers ou quelqu'un de mauvais, eh bien c'est un mal dont vous vous débarrassez de vos épaules. Mettez dans sa tombe, Rabbi Rehaspo. Voilà. Ici, bien sûr, ce hadith, certains savants, assez étonnamment d'ailleurs, certains savants ont utilisé ce hadith pour parler comme quoi il faut vite faire tout ce qui est lavage, enterrement, etc. Non. Ce hadith, comme l'a indiqué le Qurtubi, comme l'a indiqué l'imam al-Nawawi également, rahmatullah alayhim, wa alayhim jami'an, ils ont indiqué que ce hadith parle du fait que lorsqu'on porte donc le cortège, lorsqu'on porte la civière du défunt, de précipiter les pas, de ne pas aller doucement, de précipiter les pas sans faire tomber le corps, bien sûr, de précipiter les pas pour vite donc aller l'enterrer. Donc ça, c'est ce qu'il convient de faire, inshallah, comme première chose. La deuxième chose, maintenant qu'on l'a enterré, qada ou deyne, rembourser ses dettes le plus vite possible. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à ce niveau, il dit nafsul mu'min mu'allaqatun bi deyne hatta yuqda an. L'âme du croyant reste attachée à sa dette jusqu'à ce que sa dette soit acquittée. Donc il faut se précipiter. Il est important de se hâter, se précipiter à remettre les dettes de la personne décédée. Et on a apporté un compagnon, un musulman, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui était endetté. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Sallu ala sahibukum » Priez sur votre ami, moi je ne prie pas sur lui. Le prophète s'est abstenu de prier en faveur de quelqu'un qui avait des dettes. Tout ça pour souligner la gravité donc, de la situation. Il est important de vite donc rembourser cela. Et les dettes, en général, « ad-dayn » se divise en deux catégories, mes chers frères et sœurs. Il y a ce qu'on appelle « ad-dayn alladhi huwa haqqun lillahi ta'ala » et il y a « ad-dayn alladhi huwa haqqun li adami » Donc il y a des dettes qui sont des droits d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme « as-siyam » comme « al-hajj » par exemple. Et il y a des dettes qui sont des droits des êtres humains vivants. Quant aux dettes qui sont un « haqq » d'Allah subhanahu wa ta'ala, on va parler du « siyam » par exemple. Parce que nous avons un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Man mata wa alayhi siyam sama anhu waliyuh » Celui qui meurt et qui a son actif, un jeûne, siyam, eh bien son proche doit jeûner pour lui à sa place. Mais il est important de souligner que, concernant ce hadith, il s'agit, ce jeûne, ce n'est pas n'importe quel jeûne, siyam. Il s'agit de ce qu'on appelle de siyam al-nadr. D'après l'avis, inshallah, le plus fort, le plus plausible des savants, al-qawl al-rajih, min kalam ahl al-ilm, c'est que ce siyam que nous pouvons faire à la place du défunt, c'est ce qu'on appelle siyam al-nadr. Qu'est-ce que vous dire al-nadr? Al-nadr, c'est une promesse que tu fais à Allah subhanahu wa ta'ala. L'un d'entre vous dit, voilà, si je réussis mes examens, bien je jeûnerai 3 jours pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est une promesse que tu t'es faite pour lui. Alors, tu dois l'exécuter. Et si tu meurs sans l'avoir exécuté, eh bien l'un de tes proches doit l'exécuter à ta place. Et on a à ce sujet le compagnon Sa'd ibn Ubada, qui a un jour interrogé le prophète en disant, Ya Rasulallah, inna ummi matat wa alayha nadr. Ma mère est décédée et elle avait une promesse envers son Seigneur, nadr. Que ce soit sadaqa ou que ce soit le jeûne ou n'importe quelle action pieuse qu'elle a promis pour Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ce qu'on appelle un nadr. Le prophète lui a dit, iqdihi anha. Exécute-la à sa place pour elle. Et également Ibn Abbas a été interrogé, d'après Abu Daoud, Ibn Abbas a été interrogé à ce sujet et il a répondu de la même façon en disant que la personne qui est malade et qui meurt et qui a des jours de jeûne, on ne le fait pas à sa place. Par contre, si elle a délaissé derrière elle ce qu'on appelle un nadr, c'est-à-dire une promesse pour Allah subhanahu wa ta'ala par jeûne ou sadaqa ou autre, eh bien elle doit l'exécuter. Son proche le fait donc à sa place. Et c'est également l'avis de l'imam Ahmed ainsi que d'Ibn al-Qayyim. Et l'un des mêmes pour le pèlerinage. La personne qui n'a pas accompli le pèlerinage, non pas par négligence, si elle a fait par négligence entre elle et son Seigneur. Mais si maintenant elle voulait faire le hajj, le pèlerinage, mais elle ne savait pas le faire, faute de moyens, maladie, autre, eh bien tu peux après cela faire le hajj pour elle, le pèlerinage pour elle, à condition bien entendu que tu le fasses d'abord pour toi-même. Ça c'est une condition donc très importante. Troisième agissement concernant le défunt après sa mort, c'est exécuter son testament. Tanfidh al-wasiyya. Donc si ce testament inclut un don, hiba, pour quelqu'un, eh bien il faut le donner donc aux personnes concernées. Et quatrièmement, taqsim al-tarika. Taqsim al-tarika, départager ce qui reste. Parce qu'il faut savoir, mes chers frères et sœurs, que les frais d'enterrement sont à la charge du défunt, si bien sûr il a des biens. Les frais d'enterrement sont pris des biens que laisse le défunt derrière lui. C'est là qu'on prend ça. Et donc, après ça, le deuxième degré, les savants mis les degrés. Ils ont dit premièrement, mu'natu tajhis. Concernant ce que le mort laisse comme bien, il y a plusieurs degrés. La première chose qu'on fait, c'est qu'on s'occupe des frais d'enterrement. Première chose. Deuxièmement, on s'occupe après cela de payer ses dettes. Troisièmement, on exécute un testament. Donc si là, par exemple, il veut laisser le tiers, donner le tiers comme don à quelqu'un, on l'exécute. Et quatrièmement, c'est là qu'on commence à départager chacun, donc d'après sa part, on redistribue les parts concernant donc les héritiers. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, mes chers frères et sœurs, dit, dans le hadith, il dit, « Yatba' al-mayyit salatha, yarji'u thnan ou yabqa wahid. » Il dit, lorsque quelqu'un meurt, il y a trois choses qui l'accompagnent. Il y a deux choses qui reviennent, et une chose qui reste. Les trois choses, c'est ahlou, wa maluhu, wa amalou. Sa famille, ses biens et ses actions. Yarji'u thnan. Il y a deux choses qui reviennent, qui sont bien sûr sa famille et ses biens. Wa yabqa wahid, qui est bien sûr ses actions. Et après ça, bien entendu, on commence à distribuer donc ce qu'on appelle la part d'héritage. Al-Miraf, Al-Tarika, et notre prophète sallam dit à ce sujet, Al-Hiqu al-Fara'id bi ahliha, fama baqiya, fali uli rajulin zakar. Il dit distribuer les parts d'héritage aux personnes qui les méritent, qui ont droit, et ce qui reste, eh bien à ce moment-là, donnez-les aux personnes masculines les plus proches qui ont droit à l'héritage. Pas confondre certains matins de Jahiliya, ils se battent, ils se disputent, ils s'insultent, ils se divisent à cause de l'héritage. Ils se disent pas, viens, on va voir un savant, quelqu'un de compétent, et on va lui décrire la situation de notre famille, qui est vivant, qui est décédé, et qui nous dit comment on doit départager. Non. Aujourd'hui, je vous assure, dans beaucoup de familles, dès qu'il est mort, il est encore sur sa civière. Il est encore sur son lit. Dans la maison, ils se disputent déjà. Moi, je prends la moitié. Non, moi, je prends le tiers. Moi, je prends le quart. Tu n'auras ni le tiers, ni la moitié, ni le quart. Tu n'auras que ce que Allah et son messager t'ont donné. C'est tout, pas plus. Si tu as droit à l'héritage, tu as droit. Si tu n'y as pas droit, tu peux monter au ciel et descendre, tu n'auras droit à rien du tout. Donc, c'est pas un jeu. Al-Miraf, l'héritage a des règles, des principes. Il s'est codifié et c'est très précis. Et les familles qui sont dans ce cas-là doivent tout simplement consulter un savant qui lui, bien sûr, leur dira, comment départager tout ça. Alors maintenant, mes chers frères et sœurs, Qu'est-ce que la sunna a prévu concernant la famille du défunt? Et comment nous, qui sommes en dehors de cette famille, comment devons-nous réagir? Quelle attitude nous devons adopter? La première chose que la Sunna prévoit concernant la famille du défunt, c'est la patience. As-sabr. As-sabr wa rida bi qada'illah wa qadarih. La patience et accepter le destin. Pas commencer à dire, mais pourquoi mon fils, pourquoi mon père, pourquoi ma mère, pourquoi un tel et pas quelqu'un d'autre. Ça, c'est des choses que tu ne peux pas discuter. Ce sont des choses sur lesquelles tu ne peux pas discuter. Le destin, lorsqu'il vient, on doit dire Amenna wa sallamna, c'est tout. Nous avons cru et nous nous soumettons, pas plus. Dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rendu visite avec Abdurrahman ibn Aouf, Sa'd ibn Abi Waqas, ibn Mas'ud. Ils ont rendu visite, vous allez comprendre ce hadith par rapport à la patience. Ils ont rendu visite à Sa'd ibn Ubad qui était très malade, qui était sur le point de mourir. Alors le prophète s'est mis à pleurer. Et lorsque les compagnons qui étaient autour de lui ont vu le prophète pleurer, ils se sont mis également à pleurer. Ensuite, le prophète leur dit, Atasma'un, ala atasma'un, n'entendez-vous pas, ne voyez-vous pas? Inna Allah la yu'adhibu bidam'ati l'ayn, ou bidam'il ayn, ou innama yu'adhibu bihada. Allah ne châtie pas par les larmes que vous faites couler, mais il châtie par votre langue, ce que vous dites. Donc on comprend par ce hadith que lorsque quelqu'un meurt, on ne peut dire que du bien, que des invocations, que souhaiter rahma, la miséricorde, elle marche, elle a le pardon à cette personne. Pas qu'on fasse certains, Yahweh, il commence à crier, à hurler. Hada min amri jahiliya. Ça n'a rien à voir avec l'islam. Et le fait de verser les larmes, le prophète l'a fait, sallallahu alayhi wa sallam, concernant le fils de l'une de ses filles, et également concernant son fils à lui, Ibrahim. Et même les compagnons l'ont vu en lui disant, Ya Rasulallah, Ad-Dama'a, tu laisses couler tes larmes, tu pleures. Le prophète répond, il dit, Inna al-qalba, ou inna al-ayn la tadma'a, wa inna al-qalba la yahzan, wa la naqulu illa ma yurdillah. Il dit, certes l'œil fait couler des larmes, le cœur devient triste. Nous ne disons que ce qui satisfait Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà mes chers frères et sœurs, quel doit être notre comportement. Pourquoi je précise ce point? Parce que beaucoup de frères et sœurs pensent qu'il n'est pas permis de pleurer. Et il y a pleuré en criant, en hurlant, en disant des propos déplacés, ça c'est haram, c'est interdit, c'est un grand péché même. Et il y a pleuré, souffrir, pleurer, mais en essayant de se retenir le plus qu'on peut. Différence entre les deux. Également, ça on l'a vu là tout à l'heure, ce que la Sunna recommande concernant lorsqu'il y a un décès, c'est ce qu'on appelle al-istirja', c'est de dire inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a aussi appris à Umm Salama, lui a appris de dire Allahumma ghfir li wala wa aqibni minhu 'uqba hasana. Allahumma ghfir li wala, oh mon Seigneur, pardonne-moi et pardonne-lui. Ou aqibni minhu 'uqba hasana, et donne-moi par rapport à ce défunt, à Abu Salama, donne-moi à sa place quelqu'un qui est meilleur. Et vous savez qui est devenu l'époux? Qui est devenu l'époux de Abu Salama? Qui est devenu son époux? C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. N'est-ce pas un grand cadeau qu'Allah donne à cette femme? Certainement. Également, ce que l'islam recommande, mes chers frères et sœurs, dans la sunna, ce qu'elle recommande à la famille du défunt, c'est ce qu'on appelle al-hidat. La période de deuil. Al-hidat, c'est comme on dit, idhar al-huzn wa tarku zina. C'est faire preuve de douleur, c'est manifester sa tristesse et délaisser toute trace de beauté sur soi. Attention, hein, je vous précise, mes chers frères et sœurs, ça ne veut pas dire qu'il faut s'habiller en clochard, des vêtements tout sales, mal peignés, etc. Non, ça ne veut pas dire ça, bien sûr. Loin de là. Al-hidat, lorsque quelqu'un décède, si c'est un de nos proches, nous devons observer une période de 2 à 3 jours. Avec ses nuits, 3 jours, pas plus. Mais lorsque c'est un époux qui meurt, l'épouse, uniquement elle, l'épouse observe une période de deuil de 4 mois et 10 jours. Regardez l'islam, hikmatul islam, la sagesse de l'islam dans tout ça. Pas que c'est tout... Il est décédé, on l'a enterré, Madame fait déjà des projets de mariage avec quelqu'un d'autre. Comme si, mesquine, elle oubliait son passé avec son mari, etc., tous les bienfaits qu'il avait pour elle. Non, l'islam exprès établit cette période, 4 mois et 10 jours, pour qu'elle n'oublie pas son mari. Elle n'oublie pas son droit, son honneur. Donc ce qu'il a fait, ses mérites. Et veut dire bien sûr que la femme, l'épouse, parce que j'ai eu une fois une question à ce sujet, est-ce que la femme peut sortir de chez elle? Donc l'épouse, dont l'époux est décédé, peut-elle sortir de chez elle? Ici, Ahlul Ilm sont d'accord qu'elle sort à la qadr al-haja. Elle sort lorsqu'il y a une nécessité. Elle doit faire des courses, elle doit aller chez un médecin. Pas qu'elle sort tarsela par-ci, zerda par-là. Non, mais ça c'est qu'elle a rien compris alors à l'histoire. Parce que une fois une sœur m'a demandé, elle m'a téléphoné en me disant, est-ce que ma mère, elle est partie, elle est en période de deuil, mon père est décédé, elle est en période de deuil, donc Hidad. Est-ce que ma mère, elle voulait dire, est-ce que ma mère, est-ce qu'il lui est permis de faire ce qu'elle a fait? Je dis, qu'est-ce qu'elle a fait ta mère? Ma mère est sortie, est partie, passer une soirée avec des amis à elle, donc d'autres femmes, et ils ont bu du thé, des biscuits, etc. Ça ne doit pas faire. La période de deuil, elle reste à la maison. Et si elle sort, elle sort du hajj, pas plus. Ce qui est nécessité, médecin, faire des courses, et elle revient. Et bien sûr, Tarkuzina, donc elle doit abandonner la femme, doit abandonner toute trace de beauté. Donc elle mettra les vêtements les plus simples. Pas question de mettre kful, pas question de mettre maquillage, pas question de mettre plein de boucles d'oreilles, des bagues, des chaînes, tout ça. Non. Elle doit être la plus simple possible. Pour manifester cette tristesse, ce huzn, bien entendu. Le prophète a sallam dit à ce sujet, concernant cette période de deuil. Il dit, hadith rapporté par Umm Habiba d'après Bukhari, elle dit, donc Umm Habiba, le rapport du prophète qui dit, لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا. Il n'est pas permis à une femme qui croit en Allah et au jour du jugement dernier d'avoir, comment dire, d'observer une période de deuil qui dépasse 3 jours, sauf s'il s'agit de son époux. C'est 4 mois et 10 jours. Ici, un frère qui me fait une remarque, mais cette remarque ici, elle concerne donc ce qu'on appelle l'idda. Elle concerne l'idda. Concernant l'idda, donc la période d'attente que la femme observe quand elle est divorcée, ou alors même quand son mari est décédé. La femme enceinte, bien sûr, il y a un verset où Allah dit, « وَأَوْلَوْتَ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ. Donc la période d'attente de la femme, la femme enceinte dont son époux est décédé, normalement la femme dont son époux est décédé, elle doit attendre, sa période d'attente est de 4 mois et 10 jours aussi, comme ici le Hidat. Mais, par contre, si elle est enceinte, cette femme dont l'époux est décédé, sa période d'attente se termine avec l'accouchement de l'enfant. Voilà. Mais le Hidat c'est autre chose. Le Hidat c'est le fait d'abandonner, c'est-à-dire le fait de ne pas manifester sa joie, de montrer une tristesse, une douleur pour la femme mariée, pour l'époux, c'est 4 mois et 10 jours. Je remercie le frère parce que c'est une indication importante qu'il nous a fait ici. Le prophète a été interrogé. Une femme lui a dit, voilà ma fille, son époux est décédé. Et elle a mal à son œil. Alors puis-je mettre du kful? Donc, ma fille, peut-elle mettre du kful? Le prophète a dit, là. Non, c'est tout, point à la ligne. Il n'y a pas de kful, il n'y a ni kful, ni zwak, ni rien du tout. Rien de tout ça. Comment traiter avec la famille? Cette famille qui est frappée par cette douleur, par ce décès. Comment nous, qui sommes à l'extérieur de cette famille, qui sommes à l'extérieur, comment devons-nous réagir par rapport à cette famille? La famille, mes chers frères et sœurs, a besoin de soutien. A besoin d'être consolée. A besoin de quelqu'un qui les soutient, qui les renforce, qui les réconforte. La première chose, c'est bien sûr ce qu'on appelle les condoléances. Et tazia. Et Tazia, assez étonnant, l'imam al-Nawawi, rahmahullah, à partir du verset « وَتَعَوْنُ عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَوْنُ عَلَى الْإِثْمُ الْعُدْوَانِ » Entrez-vous dans la piété et la crainte et ne vous entrez-vous pas dans donc l'ithm al-udwan, dans le péché et l'agressivité. L'imam al-Nawawi a tiré de ce verset l'autorisation de faire les condoléances, car il dit « c'est un bab amr bil ma'ruf ». C'est une façon d'ordonner le bien. Parce que qu'est-ce que tu ordonnes à la famille? Tu leur donnes de patienter. Allah vous récompensera. Vous avez besoin de quelque chose, on est là. On vous soutient, on est à vos côtés. Tu n'ordonnes que le bien. Donc, c'est quelque part, c'est tiré de ce verset. Non pas que tu vas faire ta zia, que tu vas être condamné dans une famille, les femmes s'arrachent les cheveux, se griffent le visage. Alors les femmes qui y entrent, qui voient ça, et qui font ta zia, elles continuent avec elles, et les aident, et les appuient. Voyez-vous ? Ou alors les hommes qui entrent, qui voient des hommes en train de crier, taper par terre, etc. Taoué, ils font la même chose. Il dit, moi je suis rentré pour ta zia. Je suis rentré pour faire condoléances. Très bien, il est rentré, il voit donc les gens qui se tapent par terre, qui contre les murs, etc. Et là, il dit, bismillah, taf, taf, taf. Bon, ça c'est du geste, c'est de l'ignorance, ça. Donc ça c'est la première chose. Et bien sûr, là, bien entendu, il y a des formules dans ta zia qu'il faut dire. Parmi les formules que le prophète nous a apprises, sallallahu alayhi wa sallam, la suivante, inna lillahi ma a'ta, ou lillahi ma akhadh. وكل شيء عنده إلى أجل مسمى فلتصبر وتحتسب إن لله ما أعطى. Donc appartient à Allah ce qu'il donne et ce qu'il reprend. وكل شيء عنده إلى أجل مسمى. Et chaque chose qu'il a, donc chaque chose a un délai. فلتصبر وتحتسب. Patiente et demande la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est permis de dire deux expressions, style le meilleur c'est de s'en tenir aux expressions ou aux formules relatées par la sunna. Mais il n'est pas pour autant interdit d'utiliser d'autres formules par lesquelles on peut soulager cette famille. Style Ahsan Allahu Aza'akum, ou bien Azam Allahu Ajrakum, ou A'zam Allahu Ajrakum, qu'Allah vous récompense pour votre patience, qu'Allah vous soutienne, tout ça bien sûr c'est permis, mais le meilleur inshallah c'est d'utiliser, donc de s'en tenir à la sunna, c'est bien plus préférable inshallah, mais c'est pas pour autant interdit d'utiliser ces expressions, excusez-moi. Concernant la donc la ta'ziya, la condoléance, il y a deux remarques importantes mes chers frères et sœurs. La première remarque, c'est que les condoléances n'ont pas de jour limite, donc c'est pas 3 jours comme les gens pensent. Donc après 3 jours, tu ne peux pas faire de ta'ziya. Ça, c'est faux. Ça n'a pas de limite. Et on a même, dans un hadith sahih, lorsque le compagnon Ja'far ibn Abi Talib, radiallahu anhu arda, est tombé au champ de bataille, martyr, shahid, après 3 jours après son décès, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu auprès de sa famille faire les condoléances. 3 jours après. Donc, on ne peut pas dire que c'est limité à 3 jours. Ça n'a pas de limite. Également, le ta'ziya, c'est là le point le plus sensible. Le ta'ziya aussi, donc les condoléances, se passent, les condoléances ne doivent pas se passer dans un foyer. On ne peut pas se réunir pour ça. C'est ça la sunna. Maintenant, les gens, c'est ce qu'ils font malheureusement dans beaucoup de familles, partout. Lorsqu'il y a un défunt, donc tous les gens viennent, ils viennent où ? Ils viennent directement à la maison de la famille du défunt. Ça, en réalité, mes chers frères et sœurs, laissez-moi être franc avec vous, c'est contraire à la sunna. C'est complètement contraire. Et le compagnon Jarir ibn Abdullah al-Bajjal il dit "Kunna na'uddu al-ijtima' ila ahl al-mayyit wa sa'at al-ta'am min al-niyaha." Il dit, nous considérions que le fait de se réunir auprès de la famille du défunt et de préparer à manger, c'est-à-dire que la famille prépare à manger, on considère cela comme faisant partie de ce qu'on appelle al-niyaha. Al-niyaha, c'est le fait de pleurer avec cri. C'est le fait de se rebeller contre le destin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que lorsque nous sommes réunis, lorsque la famille est réunie avec d'autres personnes, les gens qui les invités, etc., eh bien, ça risque de raviver les douleurs, de les augmenter. Et ce n'est pas ça. La famille a besoin d'intimité. Laissez la famille toute seule. Moi, j'irai faire la condoléance si je vois le frère ou le père ou l'oncle, si je le vois au marché, je le vois à l'épicerie, à la boulangerie, j'irai le faire ta'ziya. Et ça, peut-être qu'on parlera après de ça parce que c'est un point un peu sensible. Et c'est également, bien sûr, la vue de l'imam Shafi'i et de certains de ses disciples, comme l'a relaté Nawawi, rahimahullah. Également, deuxième point important à souligner par rapport à la condoléance, ce n'est pas à la famille du défunt de préparer la nourriture. Non. Ce sont ceux qui sont à l'extérieur. La sunna nous recommande à nous, notre réaction, notre attitude à nous, par rapport à la famille du défunt, c'est à nous de préparer le repas pour eux. C'est ce qu'a recommandé le prophète concernant la famille de Ja'far ibn Abi Talib. Il dit, Isna'u li ali Ja'far ta'aman, fa innahu qad ataahum ma yushghiluhum. Préparez un repas pour la famille de Ja'far ibn Abi Talib, car en réalité, il y a une situation qui est venue, qui s'est présentée à eux, et qui les préoccupe, et qui est bien sûr le décès. Ils n'ont pas le temps de préparer, ils n'ont pas le temps, ils sont tellement dans la douleur que normalement les familles proches, les voisins, les tantes, les cousines, les oncles, c'est à eux de préparer la nourriture. Regardez ce qui se passe maintenant dans nos sociétés, dans nos communautés, c'est tout le contraire. C'est la famille. Non seulement ils sont dans la tristesse, mais c'est eux qui vont à la cuisine préparer. La mère mesquine avec ses filles, le père qui va faire les courses, etc. Alors que normalement, à ce moment, qui est un moment de tristesse, ils doivent bien sûr rester chez eux et essayer de se consoler, de remonter son moral le plus qu'on peut. Et ce sont aux proches, voisins, cousins, autres, tantes, oncles, c'est eux de préparer donc ce repas. Nous arrivons à la fin, mes chers frères et sœurs, et maintenant parlons des infractions et innovations. La première de ces infractions, on va commencer par les infractions. La première de ces infractions que nous commettons, c'est ce que nous avons dit là tout à l'heure, lorsque la personne est souffrante, al-hadith an ad-dunya wa shu'uniha. On se met à parler de la dunya. Le frère miskin ou la sœur est sur le point de mourir, va bientôt mourir, et nous on parle de dunya, comme si Amr al-Akhira ne nous intéresse pas, comme s'il n'est pas important de lui rappeler son devoir par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala, de lui rappeler qu'il s'oriente vers son Seigneur, qu'il doit se repentir, qu'il doit renouveler son pacte avec son Seigneur subhanahu wa ta'ala. C'est la première chose. Deuxièmement, al-niyah al-mayyit, wa al-ijtima' li dhalik. Donc pleurer avec cri et hurlement. Et se réunir pour ça. Comme les gens de la Jahiliya faisaient. Les femmes dans la Jahiliya, donc pleurent avec cri et hurlement. Ça, c'est al-niyaha. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit dans un hadith, il dit, arba'un fi ummati min amri al-jahiliya. Il dit, il y a quatre choses dans ma communauté qui font partie de la Jahiliya. Ces quatre choses, al-fakhr fi al-ahsab, wa al-ta'nu bil ansab, wa al-istisqa bil nujum, wa al-niyahatu ala al-mayyit. Al-fakhr bil ahsab, c'est que tu es fier de ta place sociale. Moi, je suis de haute classe, de la high class, comme ils disent. Ou bien, at-ta'nu bil ansab, c'est commencer à t'en prendre à la descendance d'un tel. Celui-là est une mauvaise descendance. Al-istisqa bin nujum, c'est dire que la pluie qui tombe, c'est grâce aux étoiles et pas grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Ou al-niyahatu ala al-mayyit. Al-niyaha, c'est, comme nous l'avons dit, c'est pleurer en criant, en hurlant, comme le faisaient les femmes, donc, à l'époque de la jahiliya. Et vous devez savoir, mes chers frères et sœurs, que le mort souffre. Et même que le mort peut être châtié à cause des pleurs avec cris de ses proches. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans Sahih al-Bukhari, dit « Inna al-mayyit la yu'adzabu bi ba'di bukai ahli » Et dans une autre narration de Bukhari également, il dit « Inna al-mayyit la yu'adzabu bi bukai ahli » Il dit « Certes, le mort donc souffre, subit une souffrance » à cause de certains pleurs de ses proches, et dans une autre narration, à cause des pleurs de ses proches. L'imam Ibn Hajar, dans son livre Fath al-Bari, commentaire de Sahih al-Bukhari, il a relaté 8 avis concernant cette question. 8 avis. Thamaniyatu aqwal. 8 avis concernant cette question du fait de pleurer, concernant les défunts, pleurer avec vive voix, avec une voix vive, en criant, en hurlant. Et donc il a relaté les différents avis. Et il a fait sa conclusion personnelle par rapport à ça, qui est une conclusion très logique et très sensible. Il dit que la personne qui va mourir et qui sait que sa famille va faire tout ça, qui sait que sa famille, après sa mort, va commencer à crier, à hurler, s'il ne leur ordonne pas avant de mourir en leur disant « Ettaqullah, ne faites pas ça », eh bien, il sera châtié. Ou encore le mort, le défunt, qui avant sa mort dit à sa famille « Pleurez sur moi et criez, faites ça ». Hadat lui aussi va subir son sort. Quant à la personne qui a recommandé ça à sa famille, de ne pas pleurer, de ne pas crier en pleurant, mais qui l'ont quand même fait, alors ici, Ibn Hajar l'a dit, ça c'est ta'allumuhu bisababihim. Donc il souffre, l'adab, ce châtiment qu'il subit, c'est qu'il souffre dans la tombe à cause d'eux, s'ils font ça. Également parmi les infractions qui sont commises, mes chers frères et sœurs, al-idraru fil wasiya, c'est commettre une injustice dans le testament. Je me souviens que j'ai reçu une question un jour d'un frère qui disait que il y a donc sa mère qui avant de mourir a dit à l'une de ses filles, alors tous mes biens, tout ce que j'ai comme argent je te donne à toi toute seule. Elle lui a déjà fait une recommandation, elle dit voilà, donc cette mère est décédée, rahmatullah alayha, donc c'est tout ce que je laisse comme bien, c'est pour toi. Ça c'est pas permis à Ikhwan, ça c'est interdit. Et ça on entend souvent que des mères ou des pères font des testaments et donnent tout à tel garçon ou telle fille et les autres ils leur laissent rien. Et après il ne faut pas s'étonner qu'après le défunt, c'est une guerre qui éclate entre eux, plein de haine, et des fois ça termine par un meurtre tout simplement. Donc ça c'est pas permis. Alors s'il y a ces critères, il faut les respecter. Aussi parmi les infractions que les gens commettent dans cela, c'est exagéré au niveau du linceul. Alors on dirait il est mort, il est décédé. Le linceul doit être simple. Comment il va l'acheter un linceul de 60 000, 70 000, 80 000 francs? On dirait que c'est un cortège royal. Le linceul, mes chers frères et sœurs, doit être le plus simple possible. Il est vrai que les gens, leur situation sociale diffère d'une famille à une autre. Il y a des gens qui sont riches, pour eux acheter un linceul à 50 000 francs, c'est rien du tout. Bref, il faut observer la modération, al-irtidal, wal-insaf, al-irtidal, wal-tawassut, dans tout ce qui est donc linceul. Parce que les gens maintenant se concurrencent dans ces choses-là. Et se concurrencent, moi j'ai payé le meilleur linceul pour mon défunt, le meilleur. Il coûte 100 000 francs. Ça c'est pas permis mes chers frères et sœurs. Également parmi les infractions, comme nous l'avons dit il y a quelques instants, se réunir pour la condoléance et également aussi faire en sorte que la famille du défunt prépare elle-même le repas, ça fait partie des infractions. Quant aux innovations, al-bida, qui sont commises durant cela, la première chose, c'est la lecture de certaines sourates lorsque le défunt ou le malade est en train d'agoniser. Et il récite certaines sourates, et en particulier les sourates Yassin, et surat Tabaraka, dans surat al-Mulk, la surat, la royauté, et surat Yassin, ils restent. Et quand on leur demande pourquoi vous restez ces surates, ils disent, Inch'Allah, comme ça, Allah va alléger donc la souffrance de ce mort, ou de cette personne qui va mourir. Ça, c'est tout à l'invisible, ça. Comment vous avez su? Qui vous a dit? Où avez-vous trouvé qu'Allah va alléger la souffrance de cette personne qui va mourir? Qui vous a dit ça? Donnez-nous un hadith, donnez-nous un verset où Allah subhanahu wa ta'ala, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que voilà, lisez surat Yassin, lisez surat Tabaraka et donc surat al-Mulk, et Inch'Allah, donc le défunt ou la personne malade qui est en train d'agoniser va, sa souffrance va s'alléger. On n'a aucune preuve. Ça touche al-ghaib et al-masa'il al-ghaibiyya tatawaqqafu 'ala al-dalil. Tout ce qui touche au monde de l'invisible, on a besoin des preuves et rien d'autre. Quant au hadith, Iqra'u Yassin 'ala mawtakum, lisez, récitez surat Yassin concernant donc le hadith Ma'aqil ibn Yassar, récitez la surat Yassin, lisez la surat Yassin auprès de vos défunts. Ce hadith est un hadith da'if, est un hadith faible et n'est pas une preuve en la question. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, observez le silence auprès du corps du défunt. Il y en a qui observent un silence, ils ne parlent pas. Donc le corps est là, personne ne parle. Et dès que quelqu'un se met à parler, il fait « Chut, tais-toi, chut. » Je ne peux pas parler. Il se met, il t'entend. Chut. Stop. Scoot. Ça n'existe pas. Aussi, parmi les innovations de bid'ah qu'il y a, c'est le corps est devant nous et on lui demande pardon. Hein? Donc, on dit « Oh mon père, oh mon oncle, oh ma tante, smahli, s'il te plaît, pardonne-moi s'il te plaît. » Ismahli, u'adhanni, etc. Alors, il est mort, il est devant nous mort. Et quand tu dis « Pourquoi tu fais ça ?» C'est parce qu'il est en train de m'entendre maintenant. Donc il va me répondre, plutôt il va me pardonner, même s'il ne me répond pas par sa langue, il va me pardonner, Inch'Allah. C'est des inventions, donc des gens, et c'est strictement exclu. Également, se réunir pour lire le Coran. Donc on se réunit, ce qu'on connaît chez nous au Maroc, et ailleurs, ce qu'on appelle le tolba, hein, donc ils se réunissent. On relate une histoire au Maroc, où une femme, elle avait un de ses proches, qui est décédé, et alors elle a été lui rendre visite, puisqu'il n'a la femme jahil, elle est ignorante. Elle a été rendre visite donc à la tombe de son proche. Alors elle a vu un de ces tolbas qui se baladait entre les tombes à la recherche de la clientèle, et c'est là qu'elle a trouvé donc la femme jahil, elle est venue vers elle. Est-ce que tu veux bien lire Hajud Drahim, tiens deux dirhams. Et on dit la lettre des versets sur l'enfer. La mère choquée, A'udhu Billah. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Au lieu de demander le pardon, le maghfirah, le rahma, au lieu de demander le pardon, la miséricorde pour ce défunt, tu lui demandes l'enfer, le châtiment. Là, c'est normal. Tu me donnes deux dirhams, c'est pas cher. Tu rajoutes, je te lis des versets, A'udhu Billah. Allah ibn Din. Ce sont ces gens-là, les chrétiens et les juifs se sont égarés à cause de ça. Les chrétiens et les juifs se sont égarés parce qu'ils ont acheté de l'argent. Ils ont acheté leurs livres ou ils ont vendu leurs livres par leur argent. Et nous, on a ces tombas qui font la même chose. Donc, ça c'est exclu. Il n'y a pas de réunion pour lire le Coran, rien du tout. Autre chose aussi, se réunir après 40 jours. Ça c'est aussi une innovation de bid'a que les gens font. Au bout de 40 jours, ils se réunissent, ils font de la nourriture, ils amènent de nouveau de tolba. Tolba, ils ont leur calendrier. Donc leur agenda, vous voyez. Ils ont leur agenda, ils disent, tiens, aujourd'hui il est mort quand aujourd'hui. Je compte 40 jours. Moi 40 jours, je serai de nouveau. Il va sûrement m'appeler pour revenir. Il y aura une bonne zerba, inshallah. Un peu d'argent de poche. Donc mon salaire, donc Nusbar Inch'Allah, ça c'est n'importe quoi aussi. Il n'y a rien dans la sunna, il n'y a absolument rien dans la sunna tout de 40 jours. Et donc ça c'est la fin de ce sujet mes chers frères et sœurs. Wallahu ta'ala a'lam wa ahkam. Subhanakallah bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayka. Akhiru da'wana. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa jazakumullahu khairan.